Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio Immo.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Immo, bienvenue dans le Mac de l'Immo. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi, le dernier du mois de mai. Et comme chaque vendredi, j'ai le plaisir d'être avec un invité. Aujourd'hui, c'est Sylvain Grataloup. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Vous êtes le président de l'UNPI, l'Union Nationale de la Propriété Immobilière. Alors, on va parler justement de cette union. Dans quelques instants, on va parler aussi de votre parcours, hein, puisque vous êtes avant tout un avocat, un universitaire également. On va aborder aussi l'actualité riche, qui est très dense,
très riche, oui.
Notamment pour les propriétaires que vous défendez. Avant de commencer dans cette émission, vous êtes à la programmation musicale. Alors on vient d'écouter votre premier choix, le compositeur autrichien Haydn. La création, pourquoi ce choix ?
Alors, c'est probablement pour moi le compositeur qui symbolise plus une période que j'aime beaucoup, qui est la période des Lumières. Hein. Et cette œuvre qui s'appelle La Création est tirée de la Bible et du livre des Proverbes. Et il essaye d'expliquer comment le monde s'est construit en 7 jours, en partant du chaos vers la lumière. Et je trouve qu'il y a des parallélismes qui peuvent être faits avec notre société qui aujourd'hui souffre terriblement, qui est parfois un peu désespérée, des Français un peu abattus, qui n'ont pas beaucoup de perspectives. Mais je reste convaincu que le monde a toujours tourné comme ça et qu'au contraire, il y a de belles perspectives qui s'offrent à eux.
Donc toujours aller vers la lumière.
Absolument.
Alors, on commence cette émission, encore une fois, avec un rituel. Mon invité se présente en quelques phrases, voilà. Que pouvez-vous nous dire sur vous, à nos auditeurs qui ne vous connaissent pas du tout ?
Alors c'est un exercice sur lequel je ne suis pas forcément habitué de parler de moi-même. De façon plus synthétique, j'ai fait mes études de droit à Lyon 3. Je suis lyonnais et lyonnais d'origine et très attaché à cette ville. Mes études de droit à la faculté de droit de Lyon 3. Et puis j'ai soutenu ma thèse de doctorat en 1996 sur un sujet qui est très éloigné de l'immobilier puisqu'il s'agissait de l'enfant et sa famille dans les normes européennes à une époque où les droits de l'homme étaient encore des notions bien, bien éloignées de notre quotidien d'aujourd'hui. Oui. Et il s'agissait de rassembler un petit peu et de voir à travers toutes les normes internationales et européennes s'il y avait, il pouvait se dégager un socle commun à tous les États européens et finalement une Europe avec des valeurs partagées. Voilà. Et puis, après avoir réussi le concours de maîtrise de conférence, donc en 2002, j'ai pris la direction de l'Institut de droit patrimonial et immobilier de la faculté de droit de Lyon 3, qui est un institut à la fois de recherche, mais aussi de formation professionnelle, durant 13 années, ce qui m'a permis de m'immerger dans le monde professionnel, et notamment les administrateurs de biens, les agents immobiliers, les promoteurs, les conseillers patrimoniaux, etc. etc. Donc, finalement, j'ai découvert l'immobilier par le biais universitaire et j'en ai profité par la même occasion pour créer mon cabinet d'avocat et qui est spécialisé en droit immobilier, droit du patrimoine et des successions. Et c'est vrai que c'est une richesse qui est énorme d'avoir ces deux activités parce que quand on arrive à faire une alchimie entre la dimension théorique qui implique une certaine réflexion, une certaine distance avec une réalité du quotidien des Français, donc en l'occurrence de mes clients, je pense que ça permet d'appréhender avec plus acuité les problématiques liées à l'immobilier. Donc ça, c'est quelque chose qui est très riche et qui m'a permis de prendre du plaisir à comprendre le monde de l'immobilier à travers, encore une fois, le particulier que j'essaie de défendre, en tout cas autant que cela est possible, et puis toute cette dimension de recherche et de réflexion. Et ça m'a amené petit à petit à ce qu'on me propose la présidence de l'Union nationale des propriétaires immobiliers en 2019. Alors l'UNPI du Rhône et la métropole de Lyon. J'ai pris cette présidence sans trop mesurer ce qu'il était parce que je connaissais l'UNPI, j'étais intervenu à plusieurs reprises en cadre de conférences.
En tant qu'expert.
On peut dire en tant qu'expert, mais sans rentrer dans le monde associatif et sans prendre la direction de ce monde associatif ou la présidence. Et j'ai découvert là aussi un autre volet que je ne connaissais pas, c'est le rôle de l'action syndicale, en quelque sorte. Hein, et particulièrement à Lyon, où on est très lié avec les autres acteurs de l'immobilier. Et c'est vrai que c'est une dimension qui est extrêmement intéressante. Et puis très rapidement, je suis devenu vice-président de l'UNPI nationale pour ensuite m'est confié la présidence en septembre 2023, maintenant. Donc ça fait 10 mois.
Oui, c'est assez récent.
C'est assez récent, oui.
Alors justement, on va parler de l'UNPI, donc l'Union nationale de la propriété immobilière.
Des propriétaires immobiliers.
Alors c'est un syndicat qui existe depuis un petit moment déjà, puisque il a été créé en 1893. Alors à l'époque, ça s'appelait pas comme ça, ça s'appelait l'UPBF, l'Union de la propriété bâtie de France. Il y a eu 17 présidents qui se sont succédés. Donc voilà, 2023, vous l'avez dit, c'est vous qui devenez président. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là en tant que défenseur des propriétaires en France?
Alors je reprendrai un terme que vous avez utilisé pour commencer, c'est un syndicat. Et c'est vrai que la réflexion, ou plutôt le cheminement que j'ai depuis maintenant le mois de septembre, le 27 septembre, où on m'a accordé cette confiance pour gérer cette fédération, j'ai mesuré combien aujourd'hui l'UNPI doit avoir une dimension syndicale. Alors c'est un vilain mot. Hein, aujourd'hui, quand on parle de syndicaliste, ça peut renvoyer à une sorte de notion un peu péjorative ou une réflexion qui n'est pas forcément très enthousiasmante.
Ça dépend lesquels.
pour autant, je crois aujourd'hui que l'action syndicale, c'est-à-dire en fait un corps intermédiaire entre le peuple français et les pouvoirs publics, cet intermédiaire est indispensable pour porter la voix auprès des pouvoirs publics. Alors, c'est vrai que historiquement, vous l'avez rappelé, donc l'UNPI date de 1893, alors avec une autre intitulée. Mais chaque chambre s'appelle une chambre syndicale de la propriété immobilière, CSPI. Et c'est vrai que ce mot chambre syndicale m'avait toujours un petit peu dérangé, parce que je le trouvais un peu désuète. Bien au contraire, aujourd'hui, dans le cadre des assemblées générales, je passe mon temps à rappeler aux propriétaires qu'au-delà de ce qu'est cette association qui est là pour conseiller, accompagner nos propriétaires dans leurs choix, il y a toute une dimension syndicale. Et encore plus aujourd'hui, mais je pense qu'on sera amené à en reparler, où la propriété est particulièrement menacée,
malmenée,
tourmentée
on peut
en tout cas.
Ouais. Là, vous parlez des chambres, alors il y a 80 chambres. Le maillage est assez fin sur le territoire français au final.
Oui, c'est très intéressant justement parce que tout le territoire français est représenté, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Avec une hétérogénéité de ces chambres syndicales, puisque certaines dans les métropoles sont extrêmement importantes, avec des milliers d'adhérents. Celles qui sont plus modestes, parce que leur territoire est moins peuplé. Mais toutes ont des problématiques qui leur appartiennent. Vous allez du côté de Royan, ce sont toutes les problématiques liées au tourisme. Pareil pour le sud de la France. À l'inverse, vous avez des villes comme Lyon, comme Paris, qui sont confrontées aux problématiques des métropoles et de l'attraction que ces villes peuvent avoir en termes de logement. Mmh. Il faut rassembler un peu tout ça. Alors c'est vrai que je me promène un peu pas tous les week-ends, mais très souvent dans le cadre des assemblées générales de chacune de ces chambres, et j'écoute avec beaucoup d'attention ce que les propriétaires, c'est-à-dire ceux qui sont sur le territoire français, peuvent ressentir de la propriété, leurs difficultés, leurs perspectives, qui parfois sont un peu sombres, et essayer après de porter ce message auprès des pouvoirs publics. La France n'est pas que Paris. Et je mesure combien, quand on ne vit qu'à Paris, ce qui est le cas maintenant, puisque je passe mon temps à Paris, on peut très vite oublier les problématiques du territoire.
Et c'est souvent ça le problème des politiques.
Absolument, absolument. Et on ne peut pas avoir une politique nationale qui ne se décline pas sur les territoires. Ce n'est pas possible. Donc c'est vrai que c'est extrêmement riche. Alors c'est fatigant de se promener de ville en ville, mais c'est tout à fait fondamental pour porter justement cette action, ce syndicalisme qui m'anime depuis maintenant quelques mois.
Alors quand vous parlez des propriétaires qui sont adhérents aux chambres, ce sont des propriétaires bailleurs, ou des propriétaires, pas des investisseurs, hein, des propriétaires qui sont propriétaires de leur bien dans lequel ils habitent, de leur résidence principale.
Alors, il y a de tout. Il y a de tout. Ce qui est commun à l'ensemble des propriétaires, en tout cas dans l'UNPI telle qu'elle existe actuellement, c'est qu'on a, et je trouve ça magnifique et en même temps triste du regard que portent les pouvoirs publics sur ces propriétaires, ce sont des vrais propriétaires attachés à la pierre. Attachés à la pierre, attachés à cette notion de possession de biens, notamment pour la résidence principale, dans lesquelles les familles sont déposées leurs souvenirs, ont grandi, et c'était de transmission. C'est-à-dire qu'on est assez éloigné de la notion d'investisseur qui n'est que spéculatif. Il y a vraiment cet attachement à la pierre, c'est-à-dire cette France des Français. Et cette France des Français, elle est souvent caricaturée, elle est souvent malmenée par une image qui est une image d'Épinal, qui est celle du propriétaire du 19e siècle, celui qui est un rentier. Et le mot rentier me dérange un peu parce que il me semble que le Premier ministre veut essayer de lutter contre les rentes, mais surtout pas ce que sont nos propriétaires. Ils sont attachés à la propriété. Ils entretiennent ce patrimoine qui leur appartient, mais qui est le patrimoine d'une certaine manière de tous les Français. Et si on a une France qui est aussi belle sur le plan architectural, qui est le pays le plus attractif en termes de tourisme, c'est justement parce que on a des paysages absolument magnifiques, on a une côte, qu'elle soit littorale ou méditerranéenne, qui est enthousiasmante, avec en plus une architecture qui est splendide. Mmh. Et ça, les propriétaires sont attachés à ça. Alors à la fois en tant que propriétaires occupants, ça fait partie de nos adhérents, puis aussi ceux qui ont considéré que acquérir un bien, deux biens, trois biens, ou bien par une transmission successorale, donc c'est la préservation du patrimoine, mais aussi en faisant l'acquisition d'un bien pour l'un des enfants ou les enfants qui font des études, etc., constituer un tout petit patrimoine, mais qu'il fallait préserver et qu'il faut conserver, et aussi parce qu'il rapporte pour ces propriétaires qui sont relativement âgés aujourd'hui, des compléments de revenus extrêmement importants. Mmh. Voilà. Donc, il y a un attachement, je trouve, de ces propriétaires, pour ces propriétaires. On ne peut pas être dans une logique de financiarisation telle que les pouvoirs publics l'envisagent aujourd'hui. On ne peut pas être dans l'irrespect des propriétaires et toutes les mesures qui sont proposées, les projets de loi, basculent vers un irrespect et une incompréhension des propriétaires et de la propriété.
Encore une fois, je pense que vous l'avez dit, c'est très parisien au final. C'est
parisien parce que effectivement Paris est la capitale, donc les symptômes ou en tout cas les comportements de mauvais propriétaires sont exacerbés dans la capitale, et bien sûr qu'on en retrouve. Je pense aux marchands de sommeil, et on parle sans arrêt des marchands de sommeil, on parle sans arrêt de ces bailleurs qui ne respectent pas ou bien l'encadrement des loyers, qui sont excessifs dans les loyers, mais bien sûr qu'il faut encadrer tout cela, et ce sont des vilains, mais le cœur même de l'UNPI et de ses adhérents, ce sont des propriétaires qui, tous les jours, se sont levés pendant 10, 15, 20 ans pour travailler et rembourser un prêt immobilier, qui, à un moment donné, ont pu hériter d'un ou deux biens ou d'une résidence familiale qu'ils souhaitent conserver, parce qu'il y a cet attachement à la pierre. Et la pierre, c'est aussi la personne, c'est l'incarnation d'une histoire et d'une histoire familiale. Mmh. Et ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier, parce que sinon, on va aseptiser nos relations, aseptiser la société, et c'est pour autant quelque chose de fondamental de recréer du lien. Et je pense que la propriété contribue à créer du lien, à la fois entre propriétaires, entre propriétaires et locataires, propriétaires et les pouvoirs publics.
Mmh. Et c'est vrai que c'est ce que vous disiez, c'est très français. Hein. Quand on regarde en Allemagne, il n'y a pas du tout ce même attachement à la pierre, par exemple. Dans les autres pays européens, hein, en Espagne, c'est pareil. Et c'est vraiment en France où on retrouve cet amour de la pierre, ce respect et puis ce besoin de devenir propriétaire, cette envie en tout cas. Un petit mot justement sur, alors pour les propriétaires qui nous regardent, comment, voilà, quels sont les avantages pour eux à rejoindre l'UNPI ?
Il faut rejoindre
une question
une
assez.
Non,
voilà,
je suis
propriétaire. Voilà.
Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que aujourd'hui, gérer un bien immobilier, que ce soit sa résidence principale ou évidemment quand on a un ou deux biens en gestion, c'est-à-dire qu'on donne à bail, c'est extrêmement compliqué parce que on reviendra peut-être dessus, mais la législation est d'une complexité.
Ça change beaucoup.
Phénoménale. Et je vois dans mon activité d'avocat, avant de trouver le bon texte applicable, il faut ouvrir devant soi un certain nombre de codes et c'est assez compliqué. D'un point de vue de la réflexion, là aussi, on s'aperçoit qu'il y a une prolifération législative qui est faite pour protéger l'individu, mais en réalité, on ne le protège absolument pas parce qu'il y a trop de textes qui sont dans des contradictions, qui sont faites la plupart du temps avec une volonté d'abondance, alors que parfois les choses les plus simples et celles de bon sens pourraient suffire à réglementer. Et ça suffit, comment dire, un texte simple repose encore une fois sur du bon sens, mais ça suppose de donner confiance ou d'avoir confiance envers les propriétaires. Dès l'instant où il y a une méfiance entre les différents individus, évidemment qu'on va essayer de les encadrer. C'est pas ce que je ressens à l'UNPI. Les propriétaires, au contraire, sont des gens qui sont pleins de bon sens, qui sont bienveillants et qui sont soucieux. Donc on est là pour les accueillir, les accompagner dans, d'un point de vue fiscal, par exemple. Les déclarations fiscales, c'est en ce moment, c'est extrêmement compliqué. Les accompagner sur la rénovation énergétique. Là aussi, ils sont complètement perdus, ils ne savent pas ce qu'il faut faire, comment le financer. L'établissement d'un bail d'habitation, c'est pas simple non plus, parce que si à l'origine le bail faisait quelques pages, aujourd'hui il y a un très grand nombre de dispositions qui s'imposent. Donc voilà, c'est tout cet accompagnement durant toute l'année, avec une cotisation, mais qui, là je vais me faire taper par les doigts par mes confrères, mais qui est beaucoup moins cher qu'une consultation chez un avocat. Donc c'est pour ça qu'il y a tout intérêt à rejoindre l'UNPI. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui me semble fondamentale, c'est que le propriétaire est quelqu'un de profondément discret, de pudique, quelqu'un qui...
Ça aussi, c'est très français. Hein.
Et oui, alors c'est notre histoire, peut-être un peu judéo-chrétienne, qui fait qu'on n'a pas trop envie de montrer d'éventuels signes extérieurs de richesse, à supposer que ce soit une richesse. Il n'empêche que il y a quand même 58% des ménages qui sont propriétaires.
Oui, c'est les derniers chiffres de l'INSEE pour 2023.
Ce qui est énorme. Et pour autant, on ne les voit pas, on ne les entend pas. Et pour autant, et vous le savez, depuis plusieurs années, on leur tape dessus d'une façon extrêmement violente. Ils ne se manifestent pas. Donc c'est le rôle de l'UNPI, au contraire, de soutenir ces intérêts. Mais il faut qu'ils nous rejoignent et qu'ils voit dans l'UNPI un outil extrêmement précieux pour défendre ce à quoi ils sont attachés, c'est-à-dire la propriété. Et j'allais dire, c'est les propriétaires aujourd'hui, ils vont dire à quoi bon, parce que dans le fond, le passé est derrière, mais c'est toutes les générations futures, leurs enfants, leurs petits-enfants, c'est cela auquel il faut penser. Et si on ne fait rien, la propriété va être réduite à une peau de chagrin et on aura une collectivisation des biens, du logement, ce qui me semble absolument inacceptable.
Quel est votre point de vue? Comment vous expliquez cette vision manichéenne entre les propriétaires, les méchants propriétaires d'un côté et les gentils locataires? C'est vrai qu'on retrouve beaucoup ça en France, hein, cette diabolisation du propriétaire. C'est pas nouveau. Selon vous, d'où ça vient? Depuis quand on a inconsciemment un petit peu cette vision? En tout cas, les politiques ont cette vision.
Je ne crois pas que ça soit réservé à la propriété, et aux propriétaires et aux locataires. C'est une opposition entre différents secteurs. Vous avez la même remarque entre employeurs et employés.
Oui, oui.
On peut dire la même chose des assureurs et des assurés, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, toute notre société s'est construite autour de relations qui étaient des relations, apaisées, de bon sens, avec des individus qu'on appelait le bon père de famille, qui n'allaient pas imaginer un seul instant pouvoir profiter de l'autre. Et puis, il y a eu des phénomènes comme la révolution industrielle, le consumérisme, etc., qui ont finalement transformé ces relations et qui ont cristallisé cette relation entre le bailleur et le locataire. Et c'est-à-dire qu'en fait, puisqu'on a considéré que l'individu n'était plus fiable en tant que tel, on a un petit peu collectivisé ce type de relation. Et ce qui est très significatif, c'est que la grande loi sur le bout d'habitation, c'est la loi du 6 juillet 1989, c'est la dernière loi qui fait référence, dans son intitulé, aux bailleurs et aux locataires. Depuis 1989, on a maintes fois modifié le bail d'habitation, mais jamais dans le cadre d'une loi qui fasse référence aux bailleurs et aux locataires. On parle de la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, la loi MOL, Mobilisation pour le Logement, ENL, Engagement National pour le Logement, et toutes ces lois, en fait, se préoccupent de la relation bailleur-locataire, mais non pas en redonnant des droits à l'un et à l'autre, en essayant d'équilibrer, mais en appréhendant la relation bailleur-locataire d'une façon collective. C'est-à-dire qu'en fait, les pouvoirs publics et la collectivité s'immiscent dans ce qui était à l'origine une relation individuelle entre deux personnes. Donc, ça cristallise les relations. Et puis, je pense qu'il y a des fantasmes, y compris du côté des propriétaires. Combien de fois j'entends dire que les locataires ne payent pas, que c'est compliqué, etc. Vous savez, il y a 13 millions de baux en France. Il y a 200 000 procédures.
Ça n'a pas augmenté ces deux dernières années ?
Peut-être 210, 220. Ouais. En tout cas, les chiffres du ministère de la Justice de 2023, c'est autour de 200 000.
D'accord.
200 000 pour 13 millions de baux.
Oui.
Bien sûr qu'il y a beaucoup de... On me répond très souvent, oui, mais combien de fois les locataires ne vont pas se défendre ? Mais combien de fois les propriétaires renoncent
bien
à recouvrer un arriéré locatif parce que ça coûte plus cher que finalement l'arriéré ? Donc, je crois qu'il y a du fantasme de part et d'autre.
Oui.
Le locataire qui va se plaindre du propriétaire qui s'en met plein les poches, mais à l'inverse, le propriétaire va considérer le locataire comme étant quelqu'un qui ne respecte pas le bien. Mais je ne crois pas que ce soit ça. La plupart du temps, ça se passe
très bien.
En revanche, quand ça se passe mal, c'est l'hypothèse d'un arriéré locatif avec quelqu'un qu'on ne peut pas expulser ou au bout de plusieurs mois ou plusieurs années, de squat, c'est juste un enfer.
Donc, le squat, c'est pareil, ça reste
mais c'est très marginal.
C'est très rare.
Et on ne peut pas construire une politique sur ces phénomènes qui restent des phénomènes exceptionnels. En revanche, il faut tenir compte de quoi donc ? Des locataires qui ont un pouvoir d'achat qui est aujourd'hui particulièrement mangé par le logement, donc effectivement qui ont plus de difficultés pour payer un loyer dans les délais, voire même de payer un loyer tout court, et un propriétaire qui va courir après les loyers qui lui sont dus. Parce qu'ils sont importants, parce que parallèlement, les charges augmentent. Donc le problème n'est pas locataire-propriétaire, le problème c'est les pouvoirs publics qui ne prennent pas la mesure que la France souffre aujourd'hui de pouvoir d'achat difficile.
Mais le contexte macroéconomique, c'est vrai qu'avec...
Macroéconomique ou macroéconomique ?
Les deux.
Les deux.
La crise énergétique, là vous l'avez évoqué, c'est vrai que ça a pénalisé beaucoup de locataires. Certains, bon après, encore une fois, ça reste des exceptions, mais... Bon, certains ont dû choisir entre payer leur facture d'électricité ou payer leur loyer.
Mais c'est inacceptable dans une société comme la nôtre, une société qui se dit évoluer, avancer. Ce n'est pas possible, ou bien à Paris, de voir, ou dans les grandes métropoles, des gens qui n'ont pas de logement et d'avoir des choix à faire. Ce n'est pas souhaitable. La seule chose, c'est que les pouvoirs publics ne peuvent pas faire supporter cette carence sur le dos des propriétaires. Ce n'est pas possible. Mmh. Et aujourd'hui, c'est le cas.
Alors, une petite réaction sur un récent sondage, une enquête qui a été réalisée par Opinionway et les courtiers Artemis Courtage, avec un chiffre assez alarmant. 73% des Français se disent actuellement pessimistes concernant l'économie nationale et 67% jugent la situation défavorable pour emprunter pour un achat immobilier, soit la perception la plus négative observée depuis février 2019, donc pour le 67%, 73, je crois qu'on a quasiment jamais eu un chiffre aussi mauvais. Comment vous l'expliquez ?
Alors le chiffre est effectivement alarmant, mais en fait il n'est que le reflet de cette crise que nous traversons, qui est probablement une des crises les plus graves qu'on ait pu traverser. Alors, certains disent que c'est la plus grave crise de notre histoire. Non. Si on remonte dans notre histoire, je préfère traverser la crise aujourd'hui que le problème de logement au 15e ou au 14e. Non, il y a une crise qui est grave. Donc, effectivement, les personnes ont du mal à se projeter dans le statut de propriétaire, à la fois en tant qu'accédant, mais également pour conserver ses biens. Mais pour autant, on est toujours sorti d'une crise. Simplement, il faut patienter. Aujourd'hui, on a une société qui est malade, une société qui est en bout de course, me semble-t-il, dans tous ses compartiments. Il n'y a pas un secteur qui est enthousiasmant, il n'y en a aucun. Il faut franchir le pas et probablement qu'il faudra concevoir la propriété autrement demain. En tout cas, des relations avec la notion de propriété qui ne soient pas tout à fait les mêmes. Donc, il faut patienter. Il faut patienter et se dire que faire le dos rond et puis envisager la propriété sous des auspices qui soient beaucoup plus cléments. Et d'ailleurs, dans les assemblées générales, où on a beaucoup de propriétaires âgés qui sont inquiets, et c'est un peu tout l'axe de mon action politique, c'est dans un premier temps, mais je le dis souvent, c'est d'éviter le pire. Pour l'instant, c'est ça. À court terme, c'est éviter qu'il y ait...
C'est un peu au jour le jour.
C'est un peu au jour le jour, et vous le savez bien, il n'y a pas une journée sans qu'on ne parle pas d'immobilier, sans qu'il n'y ait pas de chiffres qui sortent, sans qu'il n'y ait pas une proposition de loi ou un projet de loi qui soit évoqué. Et sur les réseaux, ça n'arrête pas. Donc on sent qu'il y a un partage de tous les acteurs de l'immobilier et des Français concernant cette crise que nous traversons. Plein de propositions, mais aucune ne permet de sortir de cette situation. Donc il faut, en tout cas c'est mon rôle, c'est dès qu'il y a quelque chose qui me semble être contraire aux intérêts des propriétaires, et on le verra peut-être après, mais des Français en général, j'essaie de m'y opposer. En revanche, il faut construire demain. Et dans ces assemblées générales, je n'ai que très très peu de futurs propriétaires ou de jeunes propriétaires. Qu'est-ce qui est excitant pour un jeune d'aujourd'hui ? C'est de pouvoir très rapidement tirer de bénéfices d'une activité. Et c'est quoi ? Ils vont investir dans du meublé touristique, parce que c'est très rentable, des bitcoins éventuellement. Ouais. Mais ce n'est pas comme ça qu'on construit l'avenir. Et je crois que ces propriétaires qui sont pessimistes, et je peux le comprendre, nourrissent aussi cette dimension anxiogène de notre société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une peur de tout. Et une peur, y compris des jeunes générations, qui ne voient pas de perspective.
Oui, et c'est vrai que c'est vite relayé, sur ça se diffuse sur les réseaux sociaux, sur les médias, ça va très vite, et c'est vrai.
Et il n'y a pas eu, si vous voulez, on n'a jamais été aussi bien soigné, la société n'a jamais été autant hypochondriaque. C'est paradoxal.
Ouais.
Donc c'est pareil pour la propriété. 58% des Français, des ménages, sont propriétaires. La plupart des Français rêvent d'être propriétaires. Et en même temps, s'il y a un créneau dans lequel ils n'auraient pas forcément envie d'y aller avec joie, c'est la propriété. Donc, il y a quelque chose de paradoxal. Ouais. Mais avec ce qu'on entend, ce qu'on voit, oui, je peux le comprendre à court terme. Mais à long terme, bien sûr que non.
Est-ce qu'il y a trop d'informations ?
Est-ce qu'il y a trop d'informations ? Mais oui, il y a trop d'informations parce que, vous savez, quand on ne sait pas où on va, on tourne en rond. Ce que j'appelle la théorie du rond-point, c'est qu'à un moment donné, on tourne, et puis on ne sait pas. Le problème, c'est qu'en tournant sur soi-même, on creuse aussi les difficultés. Donc, bien sûr qu'on essaye de mettre des pansements à droite, à gauche, mais non, notre société, et particulièrement sous l'angle de la propriété, doit véritablement se réinventer, passer vers des paradigmes nouveaux et avoir une autre manière d'être propriétaire. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui est probablement tout l'axe de mon action, c'est essayer de faire comprendre à nos propriétaires qu'être propriétaire, c'est être citoyen. C'est-à-dire, un citoyen, c'est quoi ? C'est celui qui a des devoirs envers les autres. Mais ces devoirs, on ne peut les mettre en œuvre que si on a la garantie d'un certain nombre de droits. Et si je me comporte comme un propriétaire en me disant que ça va servir à la société, que j'ai une utilité sociale et que pour servir à la société, j'ai mon outil qui est mon droit de propriété, je suis en mesure de demander au pouvoir public de garantir mon droit de propriété parce que je vais servir à la société.
Donc là, servir, c'est loger quelqu'un.
C'est loger quelqu'un dans les meilleures conditions. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, on a tous ces mécanismes de défiscalisation, etc., qui ont fait que quel que soit le secteur professionnel dans lequel on se situe, chacun raisonne à l'aune de ce qu'il est. C'est-à-dire que le propriétaire veut sauver sa peau, l'employeur veut sauver sa peau, l'employé veut sauver sa peau, etc. On n'a plus de logique globale. Il n'y a plus de bienveillance et il n'y a plus de lien social et de cohésion sociale. Donc, je crois que...
Et ça, comment vous l'expliquez ? C'est...
Mais parce qu'à un moment donné, on a été dans une logique qui était à la fois une logique libérale, que je partage et que je soutiens, mais avec des excès. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont tous les excès qui ont désorganisé le système. Et la loi, aujourd'hui, elle est là pour sanctionner les symptômes d'un mal profond. Je vous donne un exemple qui est assez significatif. Il n'y a pas très longtemps, il a été discuté au Parlement, vous savez, pour les meublés touristiques, oui. Et notamment la remise en cause de la fiscalité. Mmh. En disant, ces propriétaires qui font du meublé touristique, finalement, privent les habitants du territoire d'un logement de longue durée. Ce qui est une réalité la plupart du temps. Sauf que, première chose, parmi ces meublés touristiques, la plupart de ces meublés touristiques, c'est-à-dire de ce Airbnb, en fait, ce sont des propriétaires occupants qui partent durant un mois, deux mois, et qui louent profitent leur logement, durant de ces deux mois de mettre quelqu'un dedans. Donc, même si on les sanctionne, on ne va pas remettre du logement sur longue durée, puisque c'est la propriété de propriétaires occupants. Mais la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi ces propriétaires font le choix d'aller vers du meublé touristique.
Bien sûr, c'est la raison.
Ça, c'est le symptôme. Et la cause, c'est quoi ? C'est parce que le logement longue durée
n'est plus attractif.
Pas du tout attractif. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que moi, j'aille m'embêter à me priver de ma propriété pendant 3 années minimum, en tout cas de la jouissance avec mon locataire, que je sois contraint de faire un état des lieux, d'avoir un loyer qui est faible, ensuite des charges qui sont élevées, une fiscalité qui n'est pas géniale. Moi, je vais, encore une fois, et c'est l'exemple que je donne toujours, quand j'ai un livret A qui est à 8% et un livret B qui est à 4%, je vais vers le livret A. Et je ne peux pas en vouloir à mes propriétaires, si vous voulez, de faire ce choix-là. Mais les pouvoirs publics doivent se demander pourquoi ce choix est fait. Probablement parce qu'il y a un déséquilibre qui est mis en place. Et tout est déséquilibré en matière de logement. Tous les mécanismes qui étaient bien huilés durant un siècle, jusqu'à la révolution industrielle, parce que si l'UNPI est né en 1893, c'est que là, on commençait déjà un petit peu à avoir un état providence qui commençait un petit peu à arriver. Puis ça s'est accéléré par la suite. Mais pourquoi ces propriétaires fuient tous ces mécanismes ? C'est parce qu'ils ne trouvent plus leur compte. Et à un moment donné, quand il y a une paupérisation du propriétaire, moi, je ne peux pas leur en vouloir. Donc, il y a un rééquilibrage qui est à faire et réinventer les choses de manière à pouvoir mettre à plat tout ça et repartir sur des bases totalement différentes. Et c'est pour ça que je veux rester enthousiaste à l'égard de la propriété qui a traversé les décennies et les siècles. Il n'y a aucune raison que la propriété disparaisse, mais il faut que les propriétaires tous se réveillent, rejoignent l'UNPI et que tous disent « je suis fier d'être propriétaire ». Parce que c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Et qu'on m'impose de payer l'impôt sur la fortune immobilière parce qu'on considère que je suis riche, parce que j'ai 2 ou 3 logements, c'est inacceptable. Et effectivement, si c'est ça, je vends tout et je vais faire des placements à droite à gauche. Et ces placements financiers, eux, ne sont pas fiscalisés.
Ils ne sont pas fiscalisés, oui.
Mais c'est honteux. Oui. C'est honteux. Vous êtes collectionneur d'œuvres d'art, vous avez des millions d'euros que vous mettez dans un coffre-fort dans une banque qui profite à personne, vous n'êtes pas fiscalisé. Je suis propriétaire de 3 logements. Oui. Je loge les Français, je vais faire en sorte de rénover pour que notre patrimoine soit préservé, et on va en plus me dire « Ah ouais, mais vous êtes riche, donc on va vous imposer ».
Oui, mais parce que l'art, c'est très tendance.
Ah ouais. Mais là, c'est absolument honteux, si vous voulez, et c'est injuste.
Bien sûr.
Et je crois que l'idée, c'est pas de faire passer ce message qui consiste à dire que les propriétaires sont des privilégiés et on veut garder nos privilèges, pas du tout. Mais que le propriétaire a un rôle social. Il sert à la société, à la fois en se logeant lui-même et en logeant ses concitoyens. Et ça permet à l'État de se désengager. Alors l'État, aujourd'hui, les pouvoirs publics sont dans une dynamique qui est une dynamique de construction, de logement social. Mais comment peut-on, et c'est le projet de loi de M. Kasparian, d'accompagner les bailleurs sociaux dans le développement du logement social.
Mais abordable, intermédiaire.
Mais là, c'est intéressant, justement. Là, bon, c'est un autre sujet. Abordable social, il y a un glissement sémantique moi, qui me trouble un petit peu. Ça veut dire que quand il y a du social, ça veut dire que l'individu n'est pas en mesure, tout seul, de se prendre en charge. Il a besoin de l'État.
Oui.
Donc ça veut dire que ce logement social ou ce logement abordable, c'est très clairement la preuve d'une défaillance de l'État, quand un échec dans sa croissance économique et dans ses mesures qu'il prend. Donc je ne peux pas s'enthousiasmer de cela.
Surtout que les demandes explosent.
Les demandes explosent et on a, nous, la possibilité de pouvoir loger l'ensemble des Français, mais pas dans n'importe quelles conditions. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de propriétaires qui disent « Bon, ben, moi, quand le locataire va s'en aller, je ne vais pas le remettre sur le marché. Pourquoi » Pourquoi? Parce qu'il faut faire la rénovation énergétique, 10, 20, 30, 40 000 euros. Je suis à la retraite, je ne peux pas tout faire.
Je n'ai pas la trésorerie
donc,
pour les travaux.
J'attends, je vendrai peut-être un jour, ou ben, quand je serai mort, c'est mes enfants qui récupéreront, et puis ils en font bien ce qu'ils voudront. Ce n'est pas sain, ça. Ce n'est pas sain. Donc, au contraire, il faut dynamiser d'une façon positive la propriété, en ayant la foi en la propriété et aux propriétaires.
Alors, il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce que vous avez dit, donc c'est vrai qu'il y a un rééquilibrage à faire. Peut-être une vision plus globale du secteur, pour les politiques en tout cas. Plusieurs questions, alors on va parler de vos propositions hein, justement pour rééquilibrer ce secteur qui est en crise, hein, crise de l'immobilier, crise du logement, crise de la demande, crise de l'offre, crise de la construction, crise du financement. Voilà, vos propositions pour tenter de relancer, d'aller vers la lumière. Est-ce que, vous l'avez dit tout à l'heure, on en parle, heureusement on en parle déjà de l'immobilier, alors peut-être un peu trop parfois, peut-être mal aussi, mais est-ce que vous vous sentez au moins un petit peu écouté par certains députés qui tentent, hein, on a vu des propositions de loi passer, bon certaines ont été hélas abandonnées, je pense par exemple à la réforme du HCSF, la proposition de loi du député Lionel Causse, est-ce que, voilà, comment vous vous sentez par rapport aux politiques, est-ce que vous vous sentez entendu et aux élus, et quelles sont vos propositions, donc les propositions de l'UNPI pour relancer le secteur, notamment en passant par l'accession à la propriété.
Alors, entendu, il n'y a pas de doute à ce sujet-là. On est entendu, écouté. Le virage qui est pris par l'UNPI, c'est de n'être plus dans la plainte, la revendication et la contestation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai des propriétaires qui souffrent, une propriété qui est malmenée. Comment faire pour que nous puissions proposer à la société un projet qui intègre les propriétaires et le droit de propriété dans ce projet.
Donc là, vous êtes devenu combattant, vous n'êtes plus dans la plainte, vous êtes...
Combattant, mais d'une façon positive et constructive. Ouais. Je vous donne l'exemple qui est probablement la première proposition que j'ai pu faire, c'est la taxe foncière. Cette taxe foncière, elle est payée par le propriétaire. Et elle pose difficulté aujourd'hui depuis la suppression de la taxe d'habitation.
Ouais. Bon. Forcément, elle a explosé du coup.
Donc la taxe foncière augmente de façon considérable. Bon, ce qui me semble, quand on réfléchit bien, c'est de me dire à quoi sert cette taxe foncière. En fait, elle permet d'apporter aux collectivités des fonds, et ces fonds permettent de financer des équipements collectifs, des services publics. Mmh. Bon, et c'est très bien, effectivement, qu'on puisse avoir des écoles ou des ronds-points, enfin bon, un cadre de vie urbain, ou pas urbain, en tout cas ou rural, mais qui soit agréable. Donc il n'y a pas de difficulté à ce sujet-là. Maintenant, qui en bénéficie? Mais ce sont ceux qui y habitent. Et quels sont ceux qui y habitent? Ce sont les propriétaires occupants et ceux qui ne sont pas propriétaires, mais qui habitent ces villes. Donc il me semble logique, pour simplement une question de justice sociale, qu'il puisse y avoir une participation de tous à cet effort. Donc le propriétaire, lui, il a une taxe foncière, mais on pourrait la partager avec un locataire qui, lui, bénéficie aussi de ses équipements collectifs et de ses services publics.
Et qui ne paye plus de taxes d'habitation.
Alors, vous voyez, pour bien vous expliquer cette idée qui m'anime, qui est celle d'une justice entre tous les Français, la proposition, au départ, c'était de récupérer l'intégralité de la taxe foncière sur le locataire. Et puis, en cheminant, je me suis dit, mais dans le fond, je suis propriétaire d'un bien que je n'occupe pas. Il y a autour de ce bien-là des équipements collectifs et des services publics qui sont créés.
Mon bien prend de la valeur.
Donc, il est normal que, moi, en tant que propriétaire non occupant, je puisse aussi participer à ce financement-là. Mais pas financer l'intégralité, parce qu'il y en a un autre qui en bénéficie, mais qui ne finance rien. Vous voyez, c'est juste une question de justice. Il en est de même pour l'impôt sur la fortune immobilière. Alors, Faire disparaître cet IFI, cet impôt sur la fortune immobilière, je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas parce que on n'a plus de sous, ni l'État, ni les collectivités, donc il faut bien trouver de l'argent quelque part. Et puis, un État, pour faire fonctionner ces territoires, il y a un service public qu'il faut rendre pour tous les Français, que ce soit la santé, l'enseignement, etc. Bon. Mais si on, ce qui me dérange, et je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est que cet impôt sur la fortune se résume ou se réduise à la fortune immobilière. Alors même que ceux qui sont propriétaires de biens immobiliers participent à cet effort collectif qui est celui de permettre à tous les Français d'être logés. À l'inverse, il y en a plein qui sont propriétaires de biens, mais qui ne servent à rien pour les autres. Donc je crois que, et le Sénat avait fait cette proposition-là il n'y a pas très longtemps, c'est plutôt de transformer l'IFI en impôt sur la fortune improductive ou sur les biens improductifs. C'est-à-dire que je suis propriétaire d'un yacht, je suis propriétaire d'œuvres d'art, c'est chez moi. Bah oui, effectivement, oui. J'ai une fortune, j'ai une richesse, je vais contribuer parce qu'on va me taxer.
Alors c'est aussi votre logique sur les résidences secondaires qui ne sont pas louées aussi, par exemple.
Mais elles sont occupées quand même.
Oui.
Elles sont occupées peut-être pas aussi longtemps, mais
pas
la résidence secondaire,
ouais.
C'est quoi? C'est 6 mois, c'est il y en a certains qui vont 6 mois l'hiver dans le sud, et puis voilà, c'est un peu différent. La résidence principale est un bien improductif. Nous sommes bien d'accord. Simplement, c'est qu'il faudrait que le seuil de déclenchement de cet impôt soit très élevé. Je crois que les sénateurs avaient envisagé 2 750 000.
Parce que là, pour l'instant, l'IFI, c'est 1,3
million. Hein. 1,3 million. Mais pensez bien. Et je le vois à côté du siège.
À Paris, c'est vite arrivé.
À côté du siège de l'UNPI, il y a un petit couple de personnes âgées. Alors, je ne sais pas quels âges ils ont, parce que maintenant, c'est un peu compliqué. Ils sont tous en pleine forme. Mais à mon avis, ils ont plus de 80 ans. Et chaque fois que j'arrive à l'UNPI, à la même heure, ils doivent aller faire leurs courses. Je me dis que ce couple qui habite Boulevard Saint-Germain, je doute que ce soit dans du 30 ou 40 mètres carrés, est probablement propriétaire depuis de nombreuses années. Et à supposer que ce soit un 150 ou 200 mètres carrés, le prix au mètre carré les fait basculer immédiatement, oui, dans l'IFI. Et pourtant, leurs pensions de retraite sont extrêmement faibles.
Oui, parce qu'à l'époque, ça ne valait pas...
Et bien sûr.
Oui, bien sûr.
Donc, vous voyez, ça, c'est profondément injuste. Donc, le seuil de déclenchement pourrait être très élevé. À l'inverse, parce qu'après, on va dire que je vais taper sur l'art. Pas du tout, j'aime beaucoup ça. Mais le collectionneur qui décide de mettre à disposition sa collection d'œuvres d'art à un musée dans le cadre d'une exposition temporaire pendant 1 an, 2 ans, il apporte à la collectivité quelque chose qui est formidable, c'est la culture. Là, c'est un bien productif, certes pas tangible sur le plan financier, mais productif. Là, il devrait être exonéré de cet impôt sur les biens improductifs. Je crois qu'il faut avoir un regard qui est beaucoup plus lié à qu'est-ce que je peux apporter à la société, qu'est-ce que je dois apporter à la société, mais dans les limites d'une justice et d'une équité. Et aujourd'hui, on n'est absolument pas là-dedans. Et la propriété encore moins. Et on stigmatise les propriétaires par l'encadrement des loyers, le permis de louer, la taxe foncière qui augmente, l'IFI, et je peux multiplier des exemples, où c'est seule cette catégorie-là qui est concernée.
Alors, c'est très intéressant ce que vous dites. Vous parlez beaucoup de bienveillance, hein, de responsabilité, de citoyenneté. Ça, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de vos valeurs.
Absolument. Absolument. C'est de d'imaginer, alors certains vont dire que je me fais des illusions, mais certainement pas, de construire une société qui puisse avoir une cohésion sociale et un lien social, un lien entre les individus. C'est-à-dire que j'ai envie de pouvoir être sur un trottoir et avoir un sourire plutôt que d'avoir une méfiance. Et aujourd'hui, on est dans tous les compartiments de notre société dans une forme de méfiance, de vigilance, de malveillance. Et ça rejaillit dans tous les secteurs.
Hein.
Vous prenez le secteur de l'éducation nationale, c'est exactement la même chose. Les enseignants souffrent.
Oui, il y a une tension.
Il y a une tension. Le secteur du travail. Donc, je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui continuer comme cela. Il faut réinventer les choses d'une façon qui puisse inscrire dans, à l'égard des pouvoirs publics, en tout cas dans les mesures, une sorte de foi en l'homme, un petit peu comme pour les Lumières et le début du 19e. Et je crois qu'une société qui repose sur du bon sens, de la bienveillance, du respect de l'autre, je trouverais davantage mon compte et l'autre aussi. Et là, on peut repartir sur des bases qui sont beaucoup plus saines.
Alors, l'émission touche à sa fin. Sylvain Grataloup, juste avant de nous quitter, invité. Peut-être, on est vendredi. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Alors, il n'y a pas de match de l'OL ce week-end. Hein. C'était le week-end dernier. Je sais que.
Vous êtes bien renseigné. Ouais.
Ah bah, je soutiens aussi, je supporte l'OL. Hein. Je vous rappelle que je suis lyonnaise également.
Je reviendrai. Alors.
Voilà. Bon. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez prévu de faire ce week-end? Une assemblée générale? Non.
Non, c'est un week-end de relâche puisqu'il n'y a pas d'assemblée générale sur le territoire, en tout cas dans les chambres. Et c'est l'occasion parce que vous savez, les semaines sont extrêmement riches à l'UNPI. Les auditions que nous avons une ou deux fois par semaine, les sollicitations de nos propriétaires, de nos chambres, font qu'à un moment donné, j'ai besoin de prendre de la distance, d'écrire pour faire le point sur tout ça. Je ne crois pas qu'il soit possible de mener une action politique ou une action syndicale si à un moment donné, il ne faut pas faire reposer toutes ces informations et essayer de les mettre en ordre pour construire quelque chose. Vous savez, tout va vite en ce moment. Tout va vite, que ce soit pour les réseaux, dans l'information. Et au contraire, je crois que la propriété, c'est tout l'inverse. C'est la stabilité,
bien sûr.
C'est la distance sur les choses. Et cette notion de temporalité me semble importante. Donc, en général, les week-ends, c'est quand ils sont disponibles, c'est réfléchir à tout ce que j'ai pu apprendre durant la semaine et puis mettre à plat tout ça par écrit et puis essayer de construire quelque chose.
On se quitte en musique, Orelsan, basique, simple et basique. Pourquoi cette musique, même si on comprend, on imagine?
Alors, c'est vrai que c'est un peu troublant entre Haydn d'un côté et puis Orelsan, mais pour autant, pour moi, ça fait partie du champ artistique qu'on doit accueillir, et je ne suis pas du tout hostile à Orelsan, Jules ou d'autres, hein, bien évidemment. Et pourquoi cette chanson? Parce que, et c'est un peu ce que je viens de vous dire, c'est que tout devient trop compliqué, complexe, et on l'a un peu perdu. Et à un moment donné, un peu de bon sens, de simplicité, et revenir aux fondamentaux. Et ces fondamentaux, on ne les trouve plus. Et je crois que si notre société souffre, c'est justement parce que elle cherche des valeurs. Elle se cherche elle-même. Et tant qu'on n'aura pas des citoyens qui se rassemblent autour de valeurs partagées, ça ira pas. Ce qui nous unit, ce sont des valeurs partagées, et c'est ce qui nous offre des perspectives pour l'avenir.
Eh bien, merci infiniment, Sylvain Grataloup.
C'est moi qui vous remercie, Bérénice.
Pour ce bel entretien. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Mac de Limo. À très vite.
Basique, simple, basique. Vous n'avez pas les bases. 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 Si c'est marqué sur internet, c'est peut-être faux, mais c'est peut-être vrai. Simple. Illuminati ou pas, qu'est-ce que ça change? Tu te fais baiser. Basique. À l'étranger, t'es un étranger, ça sert à rien d'être raciste. Simple. Les mecs les plus fous sont souvent les mecs les plus tristes. Basique. 100 personnes possèdent la moitié des richesses du globe. Simple. Tu seras toujours à un ou deux numéros d'avoir le quintet dans l'or. Basique. Si t'es souvent seul avec tes problèmes, c'est parce que souvent le problème c'est toi. Simple. Toutes les générations disent que celle d'après fait n'importe quoi. Cliché. Basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases.
Vous n'avez pas les bases. Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier en partenariat avec Opinion System, Promis et Bien Ici, à retrouver sur le site et l'appli radio.immo et sur toutes les plateformes de streaming.